Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Alors présentons cette ville flamande qui nous permet d'introduire un nouveau chapitre sur les villes flamandes, justement. L'île tire son nom de son site primitif, c'est-à-dire une terre ferme entre les bras marécageux de la Deule. La Deule est un petit affluent de la Lys. La ville appartient à la région historique de la Flandre, et plus précisément, bien sûr, c'est l'ancien comté de Flandre. Et l'île a été fondée au Moyen-Âge, mais son développement est tardif. Les premiers sanctuaires nous demeurent tout à fait inconnus. Les premières églises, si toutefois il y a eu des églises paléochrétiennes, on ne sait même pas en fait. En tout cas, ces sanctuaires nous sont inconnus. On sait qu'au-dessus du port fluvial est d'abord bâtie une motte fortifiée, comme ça se faisait effectivement plutôt au haut Moyen-Âge. Dans ce cas, la fortification est en bois. Les comtes de Flandre y établissent dès l'XIe siècle une de leurs capitales, donc l'île a été très tôt une capitale des comtes de Flandre, et l'île se développe en ville double, avec la cité comtale, c'est-à-dire le vieux Lille, et la cité des marchands autour du marché, c'est-à-dire la Grand Place. Et malgré ce développement tardif, et en dépit d'une activité drapière intense dès le Moyen-Âge, on est frappé par le peu de sites conservés pour cette époque médiévale. On serait bien embêté, effectivement, de faire une présentation de la ville médiévale. Donc l'île médiévale a existé, il y a quelques édifices, je vais vous les présenter, mais alors c'est pauvre, alors qu'on sait que la ville quand même était très importante, importante en tout cas, une des capitales des comtes de Flandre, une activité drapière conséquente et pourtant très peu de monuments conservés de l'époque médiévale. Alors ça c'est un point qu'on peut expliquer, qui me paraît d'ailleurs très très intéressant à expliquer. C'est que le XIXe siècle a connu un essor manufacturier spectaculaire qui a aussi concerné les villes périphériques, aujourd'hui d'ailleurs englobées dans l'agglomération de Lille, telles Roubaix. Roubaix est ainsi passé, si on se situe, disons, au XIXe siècle. La ville de Roubaix est passée de 8000 habitants en 1800 à plus de 125 000 en 1900. Là, il y a une croissance démographique incroyable. Tourcoing, de 10 000 à 75 000 dans le même temps. Filature et tissage de la laine et du coton s'y sont relayés, assurant, malgré les crises, une expansion continue, enfin jusqu'à notre actualité, quoi, à peu près continue jusqu'à notre actualité, ou à peu près notre actualité. Et on pourrait dire que c'est l'usine qui a, en quelque sorte, créé la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est l'usine, finalement, qui l'a créée. Chaque vague industrielle a été accompagnée d'une vague de peuplement, alimentée en grande partie par une immigration belge qui formait plus de la moitié de la population de Roubaix. Dans le dernier tiers du XIXe siècle, il s'en est suivi une prolifération anarchique de corons et de courets, comme la tristement et fameuse rue des Longues Haies à Roubaix, dont on a un témoignage ici, disons, photographique. Je ne sais pas si vous le lisez, c'est tout là-haut. Donc la rue des Longues Haies à Roubaix, avec, imaginez, ces 10 000 habitants entassés dans seulement 40 courets. Incroyable, 10 000 habitants entassés dans 40 courets autour des usines, parfois ces dernières symboliquement crénelées comme les châteaux forts des seigneurs. Imaginez la situation. Aujourd'hui encore, un interminable enchevêtrement de bâtiments industriels et de maisons basses, bourgeoises ou ouvrières d'ailleurs, succède aux grandes places et aux hôtels particuliers monumentaux des centres-villes. Bon. Vers 1900, les deux villes jumelles, Roubaix et Tourcoing s'étaient déjà soudées. Et leur expansion avait largement débordé sur les communes voisines. Leur liaison à Lille, comme vous le savez sans doute, se fera par un grand boulevard de 50 mètres de large, 50 mètres de large, boulevard à quatre voies bordées d'arbres. Voilà un petit peu donc pourquoi peut-être les monuments du Moyen-Âge à Lille sont relativement rares, en tout cas pour ce qu'elle a été au Moyen-Âge, cette ville de Lille. On peut dire que oui, les monuments médiévaux sont très rares, hein, très très rares à Lille. Enfin, ils n'ont pas été conservés. Par exemple, la collégiale Saint-Pierre de Lille, elle a existé, mais enfin, elle a disparu depuis, hein, depuis très très longtemps. Alors finalement, on pourrait poser cette question, que reste-t-il de la ville médiévale? Alors qu'il y avait une activité drapière déjà intense, que la ville était une capitale des comtes de Flandre, etc., que reste-t-il de la ville médiévale? Alors des fouilles ont révélé une crypte ici, sur le site de la collégiale Saint-Pierre. C'est d'ailleurs un personnage que vous connaissez peut-être, qui a travaillé, il y a longtemps de ça maintenant, sur cette collégiale Saint-Pierre, puisqu'il a été un grand historien de Bordeaux. C'est Jacques Gardel. Et Jacques Gardel, qui a mené des recherches ici, fait remonter les premiers éléments de la collégiale aux années 1220-1230. Aux années 1220-1230, on parle des tout premiers éléments de la collégiale. Ils se fondent sur, ou ils s'appuient sur, des fouilles qui ont révélé une crypte. Et là, on parle des années 1220-1230. C'est très récent, si vous voulez. Hein. C'est très récent. Et quoi qu'il en soit, la collégiale en question, c'est pour ça que je vous présente ce document, n'existe plus. Elle a été détruite à la Révolution. N'existe plus, ça. Hein. Alors, Lille possédait quatre églises paroissiales, toutes du type Hallenkirch, Hallenkirche en allemand, c'est-à-dire le type Hall, les églises Hall qui effectivement se sont surtout développées et diffusées dans le nord de l'Europe. Alors on peut les signaler, Saint-Étienne était une de ces quatre églises paroissiales. Saint-Étienne a été incendiée en 1792, donc n'existe plus. Saint-Sauveur, incendié en 1895, n'existe plus. Saint-Maurice et Sainte-Catherine, qui existent bien, mais qui ont été toutes deux considérablement transformées au XVIIe et au XIXe siècle. Si bien que quand on les découvre, ces deux églises, Saint-Maurice et Sainte-Catherine, il ne reste plus rien du Moyen-Âge dans ces églises-là. Alors ça réduit, mais considérablement, le patrimoine médiéval de la ville de Lille à peu de choses. Et si on veut donc aller à l'essentiel, quel est ce patrimoine médiéval de Lille? Alors voilà, là vous avez quand même quelque chose d'assez spectaculaire. Quoique tardif quand même, hein, quoique tardif, 15e, et encore seconde moitié du 15e. Mais c'est spectaculaire, tout à fait spectaculaire. Alors en effet, des constructions monastiques et hospitalières nombreuses au Moyen-Âge, on sait qu'elles étaient nombreuses, au Moyen-Âge, il ne reste que la salle des malades de l'hospice comtesse, c'est ce que vous avez sous les yeux, vous avez les dates, 1469-1482, il reste aussi la salle des malades de l'hospice gantois, qui est beaucoup moins spectaculaire que celui-ci, mais quand même qui mérite d'être signalé, juste signalé, j'ai pas de photo à ce propos, qui avait été fondé quant à lui, l'hospice gantois, en 1462. Voilà. Et c'est à peu près tout, finalement, hein, pour le patrimoine médiéval. Si, on va quand même signaler, dans un instant, un hôtel particulier, et puis ça sera, on aura fait le tour, hein, du patrimoine médiéval de la ville de Lille. Alors là, donc deux mots quand même sur la construction de l'hospice comtesse. La construction est décidée par Jeanne, qui était comtesse de Flandre en 1237. Donc là aussi, c'est une fondation récente, hein, c'est pas des, on n'a pas d'évocation des vieux sanctuaires, des très très vieux sanctuaires de la ville de Lille, hein, c'est tout à fait curieux. Et en 1245, les frères et sœurs de la communauté adoptent la règle de Saint-Augustin. La comtesse de Flandre, Jeanne, fonde l'hospice en 1237, les frères et sœurs de la communauté adoptent la règle de Saint-Augustin. Donc de l'établissement primitif, c'est-à-dire l'établissement du XIIIe siècle, contemporain de la comtesse Jeanne. de cet établissement primitif qui était réservé aux malades pauvres, aux pèlerins, aux passants, il ne reste rien. Donc de l'époque de la comtesse Jeanne. Effectivement, un incendie tout à fait catastrophique dans la nuit du 11 avril 1468 a entièrement détruit l'hospice en question, l'hospice comtesse. Et l'hospice, bien sûr, est rebâti après l'incendie de 1468, d'où les dates que vous avez sur la projection, 1469-1482. On reconstruit la salle des malades, et cette salle des malades est finalement le seul témoignage au jour d'aujourd'hui de ce qu'était l'hospice comtesse au XVe siècle, après l'incendie. Pourquoi ? Parce que un nouvel incendie se déclare le 17 mars 1649, nous sommes au milieu du XVIIe siècle, et à la suite de cet incendie de 1749, la chapelle et certains bâtiments conventuels sont reconstruits. Donc il faut être prudent quand on aborde l'hospice comtesse comme on le fait là, maintenant, là. Hein. Donc là, effectivement, il faut être extrêmement prudent. Les bâtiments que l'on voit sont des bâtiments qui sont postérieurs à l'incendie de 1649. Et 1649, c'est plus le Moyen-Âge, depuis très très longtemps même. Donc, au bout du compte, seule la salle des pauvres, la salle des malades, si vous voulez, de l'hospice comtesse, date du Moyen-Âge. Et encore, hein, c'est postérieur à l'incendie de 1468. Voilà, donc l'architecture, quand on visite l'hospice comtesse de Lille, l'architecture est donc pour l'essentiel du milieu du XVIIe siècle, et il y a des corps de bâtiments qui sont pour le XVIIe siècle tout à fait remarquables, comme celui-ci par exemple, qui correspond au dortoir des sœurs Augustines, car ce sont toujours les sœurs Augustines qui habitent effectivement cet hospice à l'époque à laquelle nous sommes, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Donc voilà le très très beau corps de bâtiment XVIIe, mais j'insiste, qui n'a rien de médiéval, quoi, qui n'a rien de médiéval. Donc là-dessus, on se pose toujours la question, que reste-t-il du passé médiéval de la ville de Lille ? Bon, on a vu la salle de l'hospice comtesse, c'est remarquable, hein, c'est une très très grande salle, mais quand même du gothique tardif, disons. Et alors, on pourrait aussi citer ce palais Riour, qui date du XVe, qui est contemporain de la salle précédente, qui rappelle une chose, que les hôtels urbains de Lille ont tous disparu, alors qu'on a trouvé mention d'une centaine d'entre eux. Mais c'est normal, XVe siècle, la ville de Lille est une ville riche, c'est une ville qui est ample. Il y a beaucoup, effectivement, d'hôtels construits, des hôtels particuliers qui devaient être tous très beaux, et il ne reste plus que celui-ci, le palais Riour, pour le Moyen-Âge. Hein, c'est quand même tout à fait étonnant. Lille était une ville de résidence ducale. Les ducs de Bourgogne ont résidé à Lille, hein, parce que bon, le royaume de Bourgogne, enfin, le duché pardon, de Bourgogne, était très vaste, il comprenait les Flandres. Hein, et comme nous parlons d'une ville flamande, les ducs de Bourgogne ont résidé effectivement à Lille. Lille était une ville ducale, et une résidence donc ducale. Hein. Mais voilà, on apprend maintenant que les ducs de Bourgogne résidaient au palais de la Salle, et il ne reste plus aucun vestige, au jour d'aujourd'hui, du palais de la Salle. Puis, ces ducs de Bourgogne ont résidé ici, au palais Riour. Je vous ai mis XVe siècle, mais on peut être un petit peu plus précis, c'est parfaitement contemporain de la construction de la salle de l'hospice comtesse, 1461-1473 pour la construction du palais Riour. Il est fait de briques et de pierres, mais remarquez-le quand même, d'un parti architectural sans originalité, ni faste à l'extérieur, comme même à l'intérieur. Si on devait comparer ce palais Riour, où ont résidé les ducs de Bourgogne, quand même, à l'hôtel Jacques Coeur à Bourges, quel contraste, l'hôtel Jacques Coeur à Bourges, c'est quelque chose quand même, hein. Il est splendide, ils sont contemporains, les deux hôtels sont parfaitement contemporains, si l'hôtel Jacques Coeur à Bourges est un petit peu plus ancien, de quelques années seulement, hein, par rapport au palais Riour, hein, mais de quelques années seulement, il est 15e, hein, l'hôtel Jacques Coeur à Bourges. Alors bon, oui, effectivement, on est quand même très très surpris, d'autant plus que, par ailleurs, du palais Riour seul subsiste la chapelle et un escalier. Donc cette façade que vous avez ici, qui n'a pas de faste particulier, en briques à gauche et en pierre pour le corps de bâtiment principal que vous avez ici, à gauche, on voit, sur la photo de droite, on voit mieux peut-être la construction en briques, donc qui correspond à l'escalier, ça c'est authentique, et la chapelle, la voici. Alors je ne dis pas que ce n'est pas intéressant en même temps, hein, c'est quand même des vestiges du Moyen-Âge, un bâti médiéval, certes tardif, 15e, qui est quand même tout à fait intéressant. Donc voilà la chapelle du palais Riour. J'insiste encore un peu, le palais était la résidence des ducs de Bourgogne, à l'époque à laquelle nous sommes. Bon, de l'extérieur, elle n'est pas quand même extraordinaire, cette chapelle. Remarquez qu'on est très très loin, à la fois dans le temps, mais aussi stylistiquement, de la Sainte-Chapelle à Paris. La Sainte-Chapelle, c'est milieu du XIIIe siècle, pour simplifier. Et à la Sainte-Chapelle, vous savez ce qui s'est opéré, on a fait disparaître les murs. Hein, c'est une cage de verre, la Sainte-Chapelle. Hein. C'est pas le même gothique, quand même. Pourtant, c'est bien après, et on était capable, encore à cette époque, de faire des édifices gothiques qui ressemblaient à des cages de verre. Ici, bon, ben voilà, c'est une simplicité tout à fait déconcertante. Hein. Même le remplage des baies n'est pas quand même exceptionnel. À l'intérieur, par contre, vous avez un système de voûte qui est tout à fait caractéristique de l'époque, le gothique tardif, qu'on appelle aussi parfois le gothique flamboyant, c'est-à-dire une voûte sur croisée d'ogives, auxquelles ogives s'ajoutent des liernes et des tiercerons qui viennent compliquer la voûte, le dessin de la voûte, inutilement d'ailleurs, hein, parce que les nervures en question, les liernes et les tiercerons, comme les ogives d'ailleurs, hein, n'ont pas de fonction architectonique. La fonction est plus décorative que architectonique. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour ce passé médiéval, toujours attaché à ce palais Riour? Bah, finalement, peu de choses. Ici, un élément végétal, un fleuron, si vous voulez, un fleuron qui se développe au-dessus d'un arc en accolade, c'est bien le gothique tardif. Ici, un vitrail, il est beau, hein, le vitrail est très très beau. Toujours la même chapelle du palais Riour. Et voilà à peu près, on a fait le tour, hein. Je crois qu'on a montré effectivement l'essentiel des édifices médiévaux de la ville de Lille. Donc force est de constater qu'il reste peu de choses. Même les édifices municipaux sont modestes à Lille, comparés en tout cas aux fastueux hôtels de ville et aux incroyables beffrois des autres cités flamandes. Je crois que la prochaine cité flamande que l'on présentera, c'est Gand. Mais à Gand, c'est époustouflant, le passé médiéval à Gand. Hein, donc les hôtels de ville, les beffrois, les églises, enfin le patrimoine médiéval, c'est époustouflant. Pourtant, vous avez deux villes qui sont donc sur un pied d'égalité concernant l'économie, concernant le statut de ces villes, c'est tout à fait comparable. Mais voilà, donc il s'est produit quelque chose à Lille, que j'ai évoqué en début de cours. Il s'est produit quelque chose au XIXe siècle, hein, qui a fait que finalement ce passé médiéval a fini par disparaître. Mais à Gand, oui, à Gand, on pourra l'apprécier, à Gand, ce passé médiéval d'une ville flamande. Hein. Bon, alors, essayons quand même de creuser le sujet. Lille est prospère. Lille est une ville qui est particulièrement prospère. C'est pour ça qu'on comprend mal, effectivement, ce patrimoine qui est relativement pauvre pour la période médiévale, alors que la ville est prospère. La ville profite de l'essor du commerce drapier et se trouve au cœur d'une des régions les plus industrieuses et les plus densément peuplées de France, comptant par exemple 60 000 habitants au XVIIe siècle. Donc ça veut dire que depuis le Moyen-Âge, la ville n'a cessé de prospérer jusqu'à devenir une des villes les plus habitées. Quand on arrive au XVIIe siècle, c'est une des plus grandes villes du Royaume de France. Avant le Royaume de France, ça sera bien sûr une ville espagnole, mais ça on va le développer progressivement. Alors ce qui nous conduit au XVIIe, justement. Alors le XVIIe, on est beaucoup plus gâté, quoi, hein, donc pour le XVIIe siècle. Alors d'ailleurs, puisque je parlais d'un accroissement des démographiques, donc d'une prospérité de la ville, la région est densément peuplée, donc dynamique sur le plan économique, etc. Et c'est vrai que son enceinte, aux 8 portes, enceinte qui existait au Moyen-Âge, qui comptait 8 portes, va se révéler trop petite. Et donc la ville procède, en ce tout début du XVIIe siècle, alors que la population a augmenté, on a parlé de 60 000 habitants. Donc la ville va procéder en 1603, je sais pas ce que j'ai dit comme date tout à l'heure, bon enfin je reprends. Donc la ville procède en 1603 à son 4e agrandissement, bientôt suivi d'un 5e en 1617, dont témoignent pour ce 5e agrandissement deux portes qui sont toujours visibles aujourd'hui, la porte de Gand que vous avez ici, là, sous les yeux, certes construite en 1621, mais ça correspond bien à ce projet d'agrandissement qui est daté de 1617, donc le 5e agrandissement de la ville, la porte de Gand, qui est inscrite dans l'ancienne enceinte espagnole, car la ville est espagnole à cette époque. Vous savez effectivement que les Flandres, depuis Charles Quint, disons, pour simplifier, les Flandres appartiennent effectivement à l'Espagne, donc la ville est espagnole. Donc là, nous avons effectivement donc une porte inscrite dans l'ancienne enceinte espagnole, pour la Doua, enfin, on va nommer effectivement ceux qui en sont les commanditaires, si vous voulez, les mécènes. Ce sont les archiducs Albert et Isabelle. Les archiducs Albert et Isabelle sont gouverneurs des Pays-Bas. Ils ne résident pas spécialement ici à Lille, mais ils sont attentifs à toutes ces villes qu'ils gouvernent, dont ils sont effectivement les responsables, au nom donc du roi d'Espagne. Donc Albert et Isabelle, gouverneurs des Pays-Bas. C'est eux qui ont décidé l'extension de la ville et donc du même coup la construction de cette porte. Donc là, nous l'abordons, cette porte, à l'extérieur. Nous sommes à l'extérieur de la ville, c'est à l'extérieur de l'enceinte. C'est quand on arrive à Lille que l'on découvre cette porte de Gand, et une fois qu'on l'a passée, au revers de cette porte s'affiche la façade qui se tourne vers la ville. Là, c'est le côté vers la ville, et bien sûr, vous avez aussitôt noté le contraste entre l'extérieur, ou la façade qui se tourne vers l'extérieur, qui est beaucoup plus simple, austère, et la partie qui se tourne vers l'intérieur de la ville, qui est beaucoup plus décorée. D'ailleurs, on voit, si on se rapproche, le jeu de la maçonnerie. Je ne sais pas si ça se voit. Oui, si, on arrive à le voir. Donc, ce sont des briques. Vous voyez, ce sont des briques, mais de différentes couleurs. Certaines sont même polychromes, vernissées, installées en arêtes de poisson, créant des chaînages ou des motifs qui sont variés, parfois en losanges. Vous voyez, il y a des dessins qui se développent là sur cette partie de la façade intérieure de la porte de Gand, qui la rendent tout à fait exceptionnelle. C'est une très très belle porte. Pour l'époque quand même, 1621, c'est remarquable d'avoir conservé une porte comme ça. Et je vous parlais de deux portes. Je vous parlais donc d'un 5e agrandissement, 1617, projeté par les archiducs Albert et Isabelle. Ces portes s'inscrivent dans l'enceinte espagnole, donc de 1617. Donc la deuxième porte, c'est la porte de Roubaix, qu'on a conservée, la voici, donc elle date de 1625. Et la même chose, donc c'est la façade qui est la façade extérieure. Quand on arrive donc à Lille, de Roubaix, justement de Roubaix, on voit effectivement cette porte-là. Donc elle est sévère à l'extérieur, quoique vous avez quand même donc une belle niche au-dessus, qui est coiffée d'un pan semi-circulaire, flanqué de pilastres, avec un groupe sculpté à l'intérieur. Et de l'autre côté, la façade va s'avérer identique, à peu de choses près, à celle que l'on a vue précédemment. Donc, à l'intérieur, les deux portes, enfin, quand on considère les façades intérieures, des portes de Gand et de Roubaix, elles sont similaires. Alors, ça veut dire que le XVIIe siècle est effectivement plus conséquent, mieux doté en patrimoine monumental. Les monuments sont plus importants, effectivement, on va l'apprécier, avec par exemple ici la maison des vieux hommes, c'est comme ça qu'on l'appelle, 1624. La ville est toujours espagnole à cette époque. Bon, alors 17e siècle, on commence à le comprendre, commence véritablement l'âge d'or de la cité de Lille, illustré par la vigoureuse originalité de son architecture, comme le montre par exemple la maison des vieux hommes qui date de 1624. Et on assiste ainsi à la constitution progressive d'un véritable style lillois. Au XVIIe siècle, il y a une vraie originalité dans la construction de ces maisons, enfin des bâtiments, du patrimoine monumental de la ville de Lille. Alors, style lillois, comment peut-on le qualifier? Donc c'est un style qui part de formules simples, mais franches, ce que traduit très bien cette maison des vieux hommes. Donc effectivement, la formule est simple au niveau de l'élévation, deux niveaux plus donc un niveau pour les combles, cinq travées, hein, donc la travée centrale correspondant bien sûr à l'entrée principale. Donc il y a utilisation de pierres et de briques. Donc le décor est un décor qui reste simple, c'est-à-dire des petits arcs semi-circulaires, hein, ou écrasés, un petit peu écrasés finalement au-dessus des ouvertures de chacune des travées, bon, enfin par la porte, où là c'est une table simplement au-dessus. Ça reste simple, vous voyez, c'est simple mais efficace comme architecture, enfin franc, formule simple et franche. Hein. Et la maison des vieux hommes est le dernier vestige de l'ensemble hospitalier Saint-Charles-Borromée. Il y avait là, à cet emplacement, un ensemble hospitalier qui était destiné à abriter, je cite, des pauvres anciens hommes qui ne peuvent plus gagner leur vie. C'est la titulature, hein, des pauvres anciens hommes qui ne peuvent plus gagner leur vie. D'où l'appellation effectivement de la maison des vieux hommes. Hein. C'est en fait un hôpital, l'ensemble hospitalier Saint-Charles-Borromée. Donc sa fondation s'inscrit dans le mouvement de création de nombreux établissements charitables au cours du XVIIe siècle à Lille. Il y en a eu tout un tas. C'est pas propre à Lille d'ailleurs, mais c'est tout à fait frappant à Lille. Alors, nous parlions effectivement de maisons qui sont construites à Lille au XVIIe siècle et qui vont effectivement donc illustrer la vigoureuse originalité de l'architecture de Lille. Voyez plutôt ici, donc des formules. On est parti d'une formule simple. La précédente était une formule simple. Mais ces formules simples, on le voit, s'enrichissent progressivement, trouvant d'ailleurs ces motifs d'inspiration dans le maniérisme anversois. Donc ça tombe bien, je crois qu'on a prévu Anvers, hein, dans ce chapitre-là, hein, des villes flamandes. Donc on aura l'occasion de présenter cette ville, la maison de Rubens, par exemple. La maison de Rubens, c'est quelque chose à Anvers. Hein. Donc oui, là ce sont des maisons qui s'enrichissent, qui viennent puiser dans le maniérisme anversois. C'est le cas du Lombard, hein, ce qu'on appelle le Lombard, l'hôtel du Lombard. Hein. Lombard, donc, de Wilhelm, ou non, c'est Wenzel, pardon, c'est écrit sur la projection, Wenzel Coeberge, de 1626, mais c'est encore le cas d'une autre maison que je vous montre, puisqu'on parle effectivement d'enrichissement, donc d'inspiration du maniérisme anversois. Donc cette maison est frappante pour ça, et la maison aussi de Gilles de Le Boé, donc qui date de 1636. Là, les deux maisons sont tout à fait intéressantes pour ça. Elles sont inspirées de formules anversoises. Et c'est le décor, hein, qui est tout à fait frappant. Les villes s'enrichissent, pardon, les hôtels, les maisons s'enrichissent sur ce plan-là, hein, du décor. Elles sont plus décorées. Donc la maison de Gilles de Le Boé, dite aussi du Bon Bouillon, en référence à un ancien estaminet qui date de 1636, pour évoquer finalement quelques-unes de ces maisons. Vous avez bien remarqué, on en a présenté trois très différentes en fait. Hein. Les trois sont vraiment très différentes, ce qui montre bien l'originalité. Hein. Donc il y a un style lillois, et le style lillois se caractérise par une originalité, des références aux hôtels anversois, etc. Mais bien sûr, toutes ces formules, hein, vous avez aussi bien noté la chronologie, hein, de ces trois maisons, toutes ces formules vont s'exprimer de la façon la plus magnifique dans la bourse Et la Bourse de Lille, c'est un chef-d'œuvre, hein, c'est le chef-d'œuvre de Julien Détré, donc 1652. On va y revenir, hein, je vais vous donner les références, bien sûr, de l'architecte Julien Détré, 1652. Voilà, mais avant cela, on va présenter d'abord cette place, hein, qui est vraiment très, très, très impressionnante, la Grand Place. Hein, aujourd'hui, place Charles de Gaulle, deux mots sur cette place-là. Donc, c'est dans l'architecture civile, la bourse que vous avez à droite, l'édifice majeur avant la conquête française. C'est l'édifice majeur avant la conquête française, c'est le bâtiment qui est à droite. Mes deux mots sur la Grand Place, aujourd'hui place Charles de Gaulle, à Lille, cette place rassemble plusieurs édifices qui sont d'influence artistique étalés dans le temps. Par exemple, on pourrait signaler au centre de la place ce que vous avez ici à gauche, hein, donc une colonne, et au sommet de la colonne une statue qui est la statue de la déesse, on l'appelle comme ça. Elle date de 1845. Là, c'est carrément 19e, statue de la déesse, 1845, et elle est là pour rappeler la résistance de la ville face à l'occupation autrichienne en 1792. Les Lillois ont résisté en 1792, d'où cette image-là. Ensuite, la vieille bourse, donc ici, que l'on voit se développer à droite, c'est le grand, grand bâtiment que j'évoquais à l'instant, sur lequel on va revenir, bien sûr, on va en faire un commentaire. La vieille bourse à droite, qui est construite de 1652 à 1653, donc là, c'est une construction très très rapide, qui témoigne de la richesse des Lillois, bien sûr, la ville est riche, et c'est un témoin de l'architecture baroque flamande, il faut insister, flamande, architecture baroque flamande. Elle va se distinguer par une succession de 24 petites maisons qui sont réunies autour d'une cour intérieure dont vous devez imaginer que derrière cette façade, ou plutôt si on franchissait la porte qui est ici, on serait dans une cour flanquée de 24 petites maisons qui ont été réunies pour faire la bourse en question. Et en arrière-plan, il y a un beau beffroi qui se dresse ici, hein. Donc c'est ce beffroi-là. Alors ce beffroi, je vous le montre, mais on va se placer maintenant devant ce beffroi. Donc on va quitter cette place pour se placer devant le beffroi. Le voici, ce beffroi. C'est le beffroi de l'hôtel de ville. Et attention à cette construction, elle date du XXe siècle. Donc le beffroi que vous avez ici date de 1924-1932. Beffroi de l'hôtel de ville. Il est haut de 104 mètres. Il domine la ville. Il est traditionnel pour les villes flamandes. On en verra à Gand, on en verra sans doute ailleurs de ces beffrois. Et je vous rappelle à ce propos que la tradition, c'est que, à l'origine, le beffroi sert d'hôtel de ville, à l'origine. Hein, donc, avec différentes parties. Donc, le beffroi peut contenir l'arsenal, par exemple, à l'origine. Mais il y a toujours une salle de réunion. Et c'était bien là que se réunissaient les magistrats jusqu'au moment où, à partir du 14e, plutôt 15e siècle, l'hôtel de ville commence à prendre plus d'importance que le beffroi. Parce que les communes s'agrandissent, les magistrats sont plus importants, et donc ils font un bâtiment à la mesure de l'autorité, hein, de la commune, des magistrats. Donc l'hôtel de ville prendra plus d'importance. Ça, c'est ce que l'on verra à Gand. À Gand, c'est tout à fait frappant. Hein, donc l'hôtel de ville de Gand, qui n'est pas le beffroi. Là, il y a une différence entre le beffroi et l'hôtel de ville à Gand. Et l'hôtel de ville de Gand a pris une dimension, mais tout à fait incroyable. Mais revenons à notre édifice principal, c'est-à-dire la bourse, ou vieille bourse, dont on disait à l'instant qu'elle a été construite par Julien Détré. Donc là, vous avez le nom qui s'affiche sur la projection, donc Julien Détré. La date de construction, 1652-1653. Et je vous disais tout à l'heure, il suffisait de passer la porte, finalement, pour se retrouver dans une cour qui était bordée de 24 maisons. Ben voilà, nous y sommes, là. Nous sommes à l'intérieur de la vieille bourse, hein, dans la cour en question qui est bordée de ces maisons qui ont fait corps ou qui ont pris corps, hein, pour faire la bourse dans sa totalité. Alors, revenons un petit peu sur les événements. Nous sommes en 1651 et sur la suggestion des corporations, la ville de Lille obtient de Philippe IV d'Espagne, car les Flandres sont occupées par les Espagnols, donc Lille est une ville espagnole. Donc, les corporations obtiennent du roi d'Espagne, Philippe IV, l'autorisation de construire sur le domaine public, je cite la formule qu'on a trouvée dans les archives, une bourse à usage des marchands qui sera environnée et enclose de 24 maisons. C'est ce qu'on lit en 1651. Dans la proposition qui sera bien sûr acceptée des corporations de la ville de Lille. Alors la ville de Lille vend ainsi à 24 commerçants de Lille les parcelles de terrain sises sur la place du marché. Car bien sûr on construit cette bourse, vieille bourse, sur la place du marché. Donc on va vendre les parcelles de terrain donc de la place du marché et la ville de Lille qui a vendu ces parcelles prend par contre à sa charge la construction des galeries. La construction des galeries, donc la galerie que vous avez ici, mais vous imaginez qu'elle fait tout le tour de la cour en question, galerie, mais aussi pavement de la cour intérieure et les quatre entrées de la bourse. Et c'est tout. Voilà, mais c'est déjà pas mal. Donc la ville qui paye donc la galerie qui fait le tour de la cour, le pavement et les quatre entrées. Les commerçants qui ont acheté les parcelles, les 24 commerçants qui ont acheté les parcelles, construiront leur maison avec un souci de créer un programme, si vous voulez, un ensemble à programme, que toutes les façades soient identiques, en fait. Alors, il faut un architecte pour ça. Et l'architecte sera ce Julien Détré, qu'on aurait pu citer tout à l'heure, dès l'hospice comtesse, quand on parlait de la reconstruction au XVIIe siècle de l'hospice comtesse. Il a participé à la reconstruction de l'hospice comtesse pour le XVIIe. Donc Julien Détré est choisi à partir de 1652, et en un temps qui est quand même relativement court, 1652-1653, il construit ce bâtiment et offre ainsi aux marchands un monument qui est majestueux, comparable à celui d'Anvers. À Anvers, vous avez une bourse qui est aussi tout à fait prestigieuse. Et la vieille bourse a ainsi remplacé la fontaine au change, car place du marché, il y avait ici une fontaine au change qui a totalement disparu aujourd'hui, il n'en reste plus rien. La vieille bourse remplacera cet édifice. Alors on retrouve une architecture qui est bien typique de la Renaissance flamande. C'était préparé par les hôtels précédents, les maisons que je vous ai montrées tout à l'heure. On disait que progressivement l'influence anversoise l'emportait surtout du point de vue du décor. Et là c'est frappant, quand on considère la vieille bourse, c'est tout à fait frappant. Une architecture typique de la Renaissance flamande du XVIIe siècle, donc un baroque flamand si vous voulez, qui mêle volontiers la couleur à l'exubérance des formes, guirlandes de fruits, cornes d'abondance, pilastres, trumeaux, tout cela richement ornementé, donc on commence à le voir là, à l'écoinçon des arcs plein cintre qui forment la galerie, on voit effectivement des motifs de guirlandes, je parlais de cornes d'abondance, alors là bon je ne sais pas si on en voit des cornes d'abondance, donc en tout cas effectivement il y a des cornes d'abondance, il y a des pilastres qui sont eux aussi richement ornés, les fenêtres sont décorées de balustres à leur base et de motifs qui sont des tympans ou des tables, parfois ce ne sont que des tables, mais donc on joue sur des courbes et des contre-courbes, c'est ça le baroque flamand, et encore des motifs de guirlande, enfin c'est déjà très riche. À l'intérieur, c'est déjà très riche. Mais que dire de l'extérieur? À l'extérieur, c'est beaucoup plus impressionnant. Donc, parce qu'à l'extérieur, chaque corps sculpté, de véritables corps, les corps humains si vous voulez, chaque corps sculpté faisant office de pilastre est une représentation païenne de la vie commerciale lilloise. Mais voyons plutôt, effectivement, vous avez ici des corps sculptés qui font office de pilastres. Ici, les pilastres, ce sont des corps humains, si vous voulez. On peut les appeler Hermès, on peut les appeler Atlante, si vous voulez. On peut les appeler Cariatides, enfin, à vous de voir. Je pense que c'est plus proche quand même des Hermès ou des Atlantes. Mais ce sont des corps humains. Et donc, chaque corps sculpté fait office de pilastre. Et je disais à l'instant que chacun de ces corps est une représentation païenne de la vie commerciale lilloise. On va bien sûr agrandir tout cela, mais avant l'agrandissement, pour avoir quand même une petite idée de cette façade qui est quand même spectaculaire sur le plan donc, du baroque flamand, c'est spectaculaire. Avant cela, remarquez quand même l'emblème. L'emblème de la Bourse de Lille est ici, couronnant le campanile de la Bourse, c'est un véritable campanile, et au sommet, c'est Mercure qu'il faut identifier. Alors, par contre, désolé, j'ai pas la photo du Mercure, je peux agrandir, mais enfin, on l'imagine un peu quand même. Hein, c'est le Mercure qui s'envole, hein, vous savez qu'il est le héros des dieux, le messager des dieux, donc il a effectivement son pétase ailé, sa petite coiffe qui est ailée, et des talonnières ailées qui lui permettent justement de s'envoler. C'est à ce moment précis de son envol qu'il a été fixé ici, tout en haut, du campanile de la Bourse. Donc ça, c'est l'emblème de la Bourse de Lille. Inutile de dire que Mercure est un dieu du commerce, donc il est tout à fait adapté ici. Là, vous avez l'agrandissement de la façade de la vieille Bourse, c'est spectaculaire, très très beau. Alors vérifiez bien hein, donc, qu'il y a des corps, et des corps humains, hein, donc des corps humains en guise d'Hermès ou d'Atlante, comme je disais, qui se substituent aux pilastres, ou qui sont les pilastres. Hein. Alors parfois, en alternance, avec des pilastres qui sont encore un peu teintés de maniérisme, d'ailleurs. Hein, le maniérisme, comme on le trouve par exemple au Palazzo Pitti, mais comme on le trouve aussi au Palais du Luxembourg, à Paris, mais ce sont des constructions fin 16e, ça. Hein. Là, nous sommes au 17e siècle, ce baroque flamand est encore un peu teinté de maniérisme italien. Alors, on voit bien que c'est riche, et ce que je vous propose maintenant, c'est d'agrandir la porte principale, et là, vous allez voir de près la richesse incroyable. Hein, donc, c'est cette porte-là que j'agrandis, enfin, la partie supérieure, hein, pour voir les détails, l'ornementation, c'est tout à fait spectaculaire. Voilà, si on n'avait pas vu les cornes d'abondance jusqu'à présent, là vous les voyez, ces cornes d'abondance, qui sont d'ailleurs comme retournées, inversées, comme pour suggérer des cornes de bélier, tout à fait étonnant, avec un enroulement très excessif, hein, c'est la volute baroque par excellence, de part et d'autre, ben là vous avez les témoignages de ce que je disais tout à l'heure, les corps sculptés qui font office de pilastres, de part et d'autre des cornes d'abondance, représentation païenne de la vie commerciale lilloise, que dire de plus, oui, bon, enfin voilà, donc c'est très très ouvragé, la porte elle-même est coiffée d'un tympan qui est interrompu, on voit le départ des arcs, de l'arc du tympan, mais qui est interrompu, ça c'est une formule baroque, qui est née à Rome, et que l'on doit sans doute à Borromini, mais enfin, entre autres architectes de Rome, hein, Borromini est un architecte contemporain de Détré, justement, etc., etc. Enfin voilà, ça vous donne une petite idée de ce qu'est ce bâtiment, qui est prestigieux, hein, c'est vraiment un bâtiment très beau. Bah, c'est une pierre locale. Là, j'ai pas la référence de la carrière de la pierre en question, mais c'est une pierre locale en fait qu'il faut apprécier. Oui, oui, parce qu'il y a cette polychromie quand même qui n'est pas négligeable. Donc le baroque flamand joue sur les couleurs, aime les couleurs. Le baroque anversois aussi, et le baroque flamand d'une façon générale, joue sur les couleurs. Donc là, on a voulu effectivement jouer au moins sur trois couleurs. On voit très bien la brique rouge en fond, une pierre calcaire qui est plutôt beige clair, qui forme justement les éléments comme les pilastres, et puis cette pierre qui est beaucoup plus sombre, mais là, j'ai pas la référence de la pierre en question. Alors bon, c'est un bouleversement à Lille, cette construction donc va beaucoup beaucoup plaire d'une part, ça plaît beaucoup aux habitants de Lille au XVIIe siècle, et ça va aussitôt changer les mentalités. Alors pour le dire autrement, comme c'est un édifice de prestige, cette vieille bourse, comme c'est le bâtiment des commerçants de Lille, donc des habitants de Lille, hein, qui montrent ce qu'ils sont. Ils sont puissants, ils sont riches. Lille est une ville économiquement très dynamique. Alors cet édifice de prestige va fortement influencer l'architecture domestique, et ainsi on fera la part des choses entre les maisons hôtels qui ont été construits avant la bourse, j'en ai présenté trois tout à l'heure, et ceux que l'on va voir construits après la bourse, comme ici par exemple ces fameuses maisons à Harcourt. Ce sont des maisons à pilastres parfois, remarquez celui-ci, la façade de cette maison-là qui est une copie finalement de la bourse, donc maison à pilastres, des rues des Manneliers. Le Pelletier, c'est une autre rue, Esquermoise, ou encore les maisons de la place du Palais Riour, que j'ai montré tout à l'heure, ou de la place de la Monnaie, bon. Ou alors ce rang de maisons, mais c'est comme ça qu'on l'appelle à Lille, le rang du Beauregard. Le rang du Beauregard, c'est un alignement de maisons comme ça, inspiré très largement de la vieille bourse, hein, donc une influence très très forte. Alors là, c'est tout à fait frappant. Alors, outre cet hôtel qui, pour son étage en tout cas, est une copie, presque une copie de la façade de la vieille bourse, le type courant de la maison lilloise, à cette époque-là, au XVIIe siècle, pour simplifier, est la maison dite à Harcourt, c'est-à-dire, les Harcourt font référence à ces arcs de décharge que vous voyez se profiler ici, mais en fait partout, vous les voyez partout, vous les voyez ici à droite, vous les voyez aussi ici à gauche, quel que soit le matériau hein, utilisé, briques, donc une pierre plus blanche, d'autres plus beige, etc. Enfin, voilà, c'est la maison à Harcourt, hein, c'est cet arc de décharge, en forme d'anse de panier, on ne peut pas se tromper, en forme d'anse de panier, hein, c'est pas donc un morceau d'un arc plein cintre par exemple, ce n'est pas un arc plein cintre non plus, mais bien un arc en anse de panier, maison à Harcourt. Donc voilà pour cela, et donc il est temps maintenant, puisqu'on a parlé de la ville au XVIIe siècle, tant qu'elle est sous le joug de l'espagnol, disons, il est temps maintenant de parler de la ville française. La ville française. Nous sommes le 28 août 1667 et après un siège de 10 jours, seulement 10 jours, Louis XIV entre dans la ville le 28 août 1667. Et ce jour-là, il reçoit du magistrat de Lille les clés de la cité. Un an plus tard, 1668, au traité d'Aix-la-Chapelle, Lille devient française. Voilà les événements. Et aussitôt, bien sûr, le roi appelle Vauban. Vauban, qui en 3 ans seulement, y construit son chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de Vauban, hein, cette citadelle qu'il aimait entre toutes et qu'il nommait d'ailleurs la reine des citadelles. La reine des citadelles, c'est la citadelle de Vauban. C'est son chef-d'œuvre, hein, c'est le chef-d'œuvre de Vauban. Aujourd'hui encore, on peut en admirer des morceaux, de très très beaux morceaux même, comme cette, donc un ensemble de murs, de portes monumentales, de bâtiments divers, mais la porte que vous avez ici fait partie bien sûr de la reine des citadelles, donc la citadelle de Vauban ici à Lille. Porte royale, c'est la porte royale de la citadelle de Lille. C'est intéressant parce que comme on a vu deux portes tout à l'heure, donc la porte de Gand, la porte de Roubaix, qui étaient des portes début 17e, remarquez que ce n'est pas le même style quand même. Hein, c'est pas le même style. Il y a bien une différence entre un style qui serait proprement flamand et même teinté de maniérisme ou du baroque anversois et le style qui est plus français là ici. Hein. Donc, porte royale de la citadelle, la voici, donc en plan, disons, hein. Alors là, je ne sais pas si on le lit bien, donc je vais l'agrandir aussitôt. Enfin là, comme ça, avec l'agrandissement, on le verra bien. Voilà. Donc la citadelle. Alors remarquez le système défensif, hein, c'est spectaculaire. Hein. Cette construction en étoile, pentagone, qui va au niveau de ses angles, donc voir des constructions demi-lune, lune, demi-lune, et ainsi de suite. Et là, l'étoile, comme ça, rayonne littéralement, mais ce sont des constructions, hein, c'est en vue de défendre la citadelle. Hein, et on voit que le cœur historique de la ville historique, est elle aussi pourvue d'un dispositif, d'une enceinte à la Vauban. On voit effectivement ce tracé typique des citadelles de Vauban, mais qui aussi sur la droite là protège toute la ville. Un quartier à la française est créé, ordonné de part et d'autre des rues royales et Saint-André, axe rectiligne qui permet une communication aisée entre la citadelle et le vieux forum, entre la citadelle et le cœur historique de la ville de Lille. Le long des axes se bâtissent aussitôt de beaux hôtels classiques entre cour et jardin. Donc voilà la citadelle et son système défensif. Voici une maquette d'ailleurs de la citadelle proprement dite à côté de la ville historique. Voilà, ça c'est l'œuvre de Vauban et c'est dès 1668 qu'il est là, enfin 1668-1669 qu'il est là pour construire la reine des citadelles. Bon, alors là-dessus, il y a aussi de cette époque du XVIIe siècle et donc de l'époque de Louis XIV des portes qui sont spectaculaires à Lille. Alors décidément les portes sont belles à Lille, très très belles. Porte de Gand, porte donc de Roubaix, la porte royale qu'on vient de voir à l'instant qui est française et celle-ci, la porte dite de Paris, qui montre bien d'ailleurs qu'une fièvre de construction règne par toute la ville. C'est-à-dire que des casernes, des quais, le pont neuf, un hôtel des Monnaies et cette monumentale porte de Paris sont construits là, à cette époque. Là, c'est-à-dire, dans ce dernier tiers du XVIIe siècle, on assiste à une opération d'urbanisme d'une ampleur sans précédent. La ville n'avait jamais connu ça, même du temps des Espagnols. Ainsi, on apprend que dans ce dernier tiers du XVIIe siècle, et quand on arrive à la fin du XVIIe siècle, la superficie de la ville s'augmente de près du tiers carrément. L'augmentation de la superficie, du tiers carrément. C'est très très important. Parlons de cette porte, vous avez quelques références, c'est Simon Volant qui l'a construite en 1684, ce qui montre d'ailleurs que Louis XIV témoigne d'un grand intérêt pour la ville. La ville est stratégique, bien sûr, c'est très très stratégique, mais il s'y intéresse du point de vue aussi de l'esthétique, de sa beauté, des constructions des bâtiments. Donc il commande à l'architecte Simon Volant la construction de la porte de Paris pour remplacer une porte qui existait ici, que l'on appelait la porte des malades. Il n'en reste plus rien, cette porte des malades. Donc celle-ci l'a remplacée. Elle est édifiée. Alors la commande, c'est 1684. Commande royale, c'est le roi qui commande à Simon Volant. Et Volant l'édifie de 1685 à 1692. 1685-1692, vous avez ici l'emblème du rattachement de l'île à la France. C'est en mémoire du rattachement de l'île à la France qu'on a construit cette superbe porte, dont vous avez ici le côté sud de la porte. C'est côté sud que l'on voit au niveau de l'attique, au-dessus de la corniche, un groupe sculpté que j'agrandirai tout à l'heure, dans un instant, je vais l'agrandir. Ce groupe sculpté est assez intéressant sur le plan iconographique, et de part et d'autre du groupe sculpté, ce sont des trophées d'armes se voient donc aussi bien à gauche qu'à droite. Encore une fois, remarquez la différence architecturale entre les portes de Gand, portes de Roubaix, même la porte royale, finalement, qu'on a vu tout à l'heure, par laquelle le roi était entré. Donc il était entré par cette porte-là, finalement, même si elle fait partie de l'ensemble de Vauban. Et la différence stylistique, quoi qu'il en soit, entre les portes précédentes et celle-ci. Celle-ci correspond bien au style français, et le style français à cette époque est classique, c'est le grand style de Jules Hardouin-Mansart, par exemple. C'est le style parisien qui triomphe, etc. Voilà, donc ça c'est le côté sud. Je vous présente le côté nord, l'autre côté de la porte, si vous voulez, c'est la même porte, mais c'est le côté nord. Ah, si vous aviez un doute sur le côté parisien, très parisien quand même, comme architecture, mais bon, on n'a rien à dire. Bordeaux, c'est aussi quand même une ville dont l'architecture est très parisienne. La preuve, c'est qu'on a fait appel à Bordeaux aux Gabriels. Et qui étaient les Gabriels? C'était les architectes du roi. Donc les Gabriels sont ceux qui ont fait la place de la Concorde, ou place Louis XV si vous voulez, à Paris. Donc, et qui viendront faire la place royale, donc la place Louis XV, la place de la Bourse à Bordeaux. Donc, et je crois d'ailleurs que Libourne a eu tendance à copier Bordeaux. Hein, donc, vous voyez que l'architecture parisienne n'est jamais très loin. En fait, que vous soyez à Lille, à Bordeaux ou ici, finalement, à Libourne. Bon, alors, quoi qu'il en soit, c'est frappant, en effet, c'est une architecture française, de type classique, dans le goût d'un Jules Hardouin-Mansart ou de d'autres très grands architectes. On aurait pu citer aussi Louis Levaux, Jacques Lemercier et d'autres encore. Hein, François Mansart, pourquoi pas. Voilà, enfin, c'est le grand style français, classique, singulier, parce que l'Europe est baroque, mais pas la France. La France se singularise, justement, avec son style classique qui est exceptionnel. Voilà, voilà pour ce côté nord de la porte de Paris, emblème du rattachement de l'île à la France. Alors, il resterait, oui, effectivement, à montrer donc le couronnement de cette porte, mais vu de l'autre côté, vu du côté sud, parce que côté nord, en fait, on va retrouver encore un trophée d'armes, un ensemble décoratif qui est moins intéressant que ce que l'on trouve au revers. Donc, voici le triomphe de Louis XIV, voici l'iconographie qui va couronner le côté sud de la porte de Paris, le triomphe de Louis XIV. Alors Louis XIV n'est représenté qu'ici, comment je pourrais dire, c'est le portrait en profil, c'est le médaillon, voilà, le médaillon ovale qui est le portrait du roi en profil, mais voilà qu'au milieu, l'allégorie de la France, donc la France personnifiée, couronne le portrait de profil du roi, hein, comme les généraux ou l'empereur romain. Donc la figure allégorique de la France va suspendre au-dessus de la tête du roi une couronne, flanquée de deux allégories de la renommée. Donc effectivement, ces figures qui soufflent dans leur trompette sont des allégories de la renommée. De plus près, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si j'ai un bon cliché de plus près. Si, je pense que ça va. On voit mieux effectivement cette très belle allégorie, la France qui couronne Louis XIV. Bon, c'est prestigieux quand même. Hein, c'est prestigieux. Ce sont des monuments qui sont vraiment très beaux. Hein. En voici d'autres d'ailleurs, hein, puisque je vous parlais d'une fièvre de construction. Je vous en présente quelques autres. La Grande Garde, ce qu'on appelle la Grande Garde, 1717. Bon, là nous sommes un peu après la mort de Louis XIV, mais enfin qu'importe. La Grande Garde, c'est un ancien corps de garde du XVIIIe siècle. Et pour ceux qui connaissent Lille, vous savez qu'aujourd'hui, c'est le Théâtre du Nord. À Lille, c'est le Théâtre du Nord, donc une salle de spectacle hein, qui est située sur la grande place de Lille. Donc, ancien corps de garde du XVIIIe siècle, c'est un édifice qui est érigé en 1717, deux ans après la mort de Louis XIV, et c'est un bâtiment qui servait tout bêtement de corps de garde pour la garnison de la ville, dont la première mission a été d'établir l'ordre, puisque la ville était espagnole, elle devient française. Le rôle de la garnison, c'est d'établir l'ordre, de garantir aussi, bien sûr, l'ordre royal, c'est-à-dire donc du roi de France. Bon, il faudrait encore illustrer cette fièvre de construction par d'autres bâtiments, comme par exemple des églises, église de la Madeleine. L'église de la Madeleine est construite entre 1675 et 1680. Église des Récollets, 1687. Église des Carmes, 1701. Elles sont intéressantes, elles sont belles, elles datent bien de cette époque, fin 17e et tout début 18e, mais bon, elles n'ont pas non plus de caractère extraordinaires, quoi. Ce ne sont pas des églises qui sont conformes au goût de la contre-réforme, de l'église de la contre-réforme. Mais enfin, quand même, à la mort de Louis XIV, plus précisément en 1714, un voyageur note ceci, Lille est le Paris des Pays-Bas. Lille est le Paris des Pays-Bas, avec ces églises que j'ai citées, la Grande Garde que vous avez sous les yeux, et quelques autres bâtiments, bien sûr, la porte précédente, et d'autres constructions, il faudrait aussi évoquer les hôtels, bon, etc. Alors ce que l'on peut faire, c'est évoquer par contre le XVIIIe siècle. Car oui, quand je dis fièvre de construction, c'est vrai. Quand je parle d'hôtel, c'est vrai. Mais enfin, on ne les a pas tous gardés quand même. Il faut rappeler comment on a commencé le cours. Au 19e siècle, la ville, oui, enfin, c'est peu de le dire, est complètement métamorphosée au 19e siècle. Bon, alors pour le 18e, pour les 18e, disons, quand on dit 18e, c'est après la mort de Louis XIV. Au contraire, on est frappé par l'absence ou la quasi-absence d'initiative officielle, en tout cas officielle, pour le XVIIIe siècle, et les seuls chantiers importants après la mort du roi, en dehors de la Grande Garde, hein, la Grande Garde datait de 1717, vous l'avez noté. Donc les grands chantiers importants sont l'hôpital général, que vous avez ici, qui date de 1739, sur les plans de Vignier de Vigny, architecture considérable, très impressionnante, mais aussi très sobre. Très sobre, et du même coup, la référence saute aux yeux, l'hôtel des Invalides à Paris. Vous voyez qu'on n'en sort pas, la référence à l'architecture parisienne. L'hôtel des Invalides à Paris, c'est un chef-d'œuvre de libéral Bruant, hein, c'est 17e, hein, l'hôtel des Invalides à Paris, c'est 17e. Pour l'hôtel des Invalides, hein, sinon l'église des Invalides, c'est bien sûr Jules Hardouin-Mansart, fin du XVIIe siècle et début XVIIIe, du temps de Louis XIV, mais l'hôtel lui-même, c'est 17e et c'est libéral Bruant. Et libéral Bruant, quand il construisait l'hôtel des Invalides à Paris, s'inspirait de l'Escorial. Hein, donc c'est des architectures très sobres, hein, très très sobres. Sobre, austère, rigoureuse. Par exemple, ce qui est frappant sur cette façade, c'est qu'il n'y a pas un pilastre. Il n'y a pas un pilastre, il n'y a pas une colonne. Hein, donc, où sont passés effectivement ces éléments qui permettent de bien distinguer les travées les unes des autres, où sont passés les tympans semi-circulaires ou triangulaires, ou les tables, ne serait-ce que les tables qui viennent coiffer les fenêtres, ou les balustres qui viennent à la base des fenêtres. Tous ces éléments sont superflus et donc ont disparu de l'hôpital en question, comme aux Invalides à Paris, comme à l'Escorial. À l'Escorial, il n'y a pas de colonne, il n'y a pas de pilastre, il n'y a pas d'éléments décoratifs, etc., etc. C'est rigoureux comme architecture, hein, c'est sobre. Si, il y a juste en retrait, ici, un élément en retrait qui donc est coiffé d'un tympan triangulaire. C'est tout, hein. En se rapprochant, effectivement, c'est frappant. Je vais me rapprocher de cette partie-là, disons. Et c'est sobre. Ah, ça tranche avec la vieille bourse. Hein. La vieille bourse est baroque. Si sur un plan stylistique, parfois, on a un peu de mal à distinguer quel style et quel style, là, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, entre la vieille bourse et son baroque et cet hôpital très, très sobre. Ah, il y a quand même des arcades, oui, effectivement. À la base, vous avez repéré effectivement ces beaux arcs plein cintre et qui retombent effectivement sur un jeu de pilastres, voilà, en rez-de-chaussée. Mais c'est tout, hein, ça s'arrête là. Hein. Ah si, il y a des petites moulures là, donc si on considère les fenêtres de l'étage, notamment du deuxième étage, il y a des petites moulures comme ça, mais enfin, bon, oulala, c'est pas la bourse, hein. Voilà, donc ça c'est un chantier qui est important. On peut citer aussi parmi les chantiers importants l'église Saint-Étienne par Thomas Gombert, Thomas F.J. Gombert, 1747. Hein, donc on aurait pu évoquer les églises du temps de Louis XIV qui ont été construites. Hein, je les ai juste évoquées oralement. Et voilà, donc une église qui est bien caractéristique et qui n'a pas d'ailleurs il n'y a pas ce petit plus qui permettrait effectivement qu'on s'y arrête davantage. C'est une église tout à fait typique de la réforme catholique ou de la contre-réforme. En façade, par exemple, hein, c'est bien typique, avec ses ailerons au niveau de l'étage, ces ailerons guise de contrefort de la voûte qui est à l'intérieur, mais qui fait office aussi décoratif en façade. Les trois niveaux, hein, dont le niveau le plus haut est une sorte de tympan qui repose sur quelques pilastres. Enfin, donc c'est effectivement bien typique comme agencement. Je vous rappelle que le modèle de ce type de façade, catholique, hein, catholique dans le sens qu'elle s'inscrit bien dans l'effort de réforme, hein, de réforme catholique, de contre-réforme. Le modèle, c'est l'église du Jésus à Rome. Hein, donc c'est la façade de l'église du Jésus à Rome. Hein, mais la façade de l'église du Jésus, c'est fin 16e. Là, on est au 18e siècle. Hein, Donc ça finit par dater, quoi, hein, cette époque, c'est des églises qui datent. D'ailleurs, hein, puisqu'on a une date, 1747, intéressant, trois ans plus tard, à Paris, le grand architecte Soufflot va faire construire, ou commence la construction plutôt, de l'église Sainte-Geneviève. Et là, quelle révolution! Là, c'est totalement différent. Soufflot va rompre totalement cette tradition qui datait depuis la fin du XVIe siècle, la tradition des églises de la contre-réforme. Hein, à tel point que quand les révolutionnaires ont vu cette église Sainte-Geneviève, ils en ont fait un panthéon. C'est le panthéon à Paris. Hein. Donc, et même à l'intérieur, vous avez effectivement une élévation qui est tout à fait typique de l'architecture de la contre-réforme, ou des églises de la contre-réforme. Alors à ça, on pourrait aussi ajouter le travail à la fin du siècle du grand architecte lillois Michel Lequeux. Lequeux est mort en 1786 et donc tant qu'il vivra, c'est vrai qu'on assiste à un renouveau de l'architecture lilloise. Alors, grâce à l'action des intendants, comme à Bordeaux d'ailleurs, les intendants Calonne, Esmangard, prenez pas ça, ça n'a pas d'importance, la ville de Lille va s'orner d'un théâtre, comme à Bordeaux. Hein, c'est toujours la volonté de l'intendant. L'intendant, c'est le représentant du roi. Hein, il est toujours souvent, d'ailleurs, en rivalité avec les magistrats hein, donc de la ville. C'est vrai à Bordeaux, c'était vrai aussi un peu, mais dans une moindre mesure, à Lille. Donc, grâce à l'action des intendants, Calonne, Esmangard, la ville, s'orne d'un théâtre. Le théâtre est terminé en 1787, donc il est parfaitement contemporain. Il était, pardon, hein, parfaitement contemporain de celui de Bordeaux. Il a été incendié en 1903. Il n'en reste plus rien. Et oui, on mesure notre chance à Bordeaux hein, d'avoir un théâtre 18e. Enfin, ça vous le savez, je ne vous l'apprends pas. C'est un des très rares théâtres 18e d'Europe, le Grand Théâtre de Bordeaux. Hein. Un hôtel de l'intendance qui est aussi construit, alors ça c'est tout à fait dans la lignée du grand architecte lillois Michel Lequeux, hein, qui va effectivement donc, engager un renouveau de l'architecture lilloise. Et cet hôtel de l'intendance, justement, puisqu'on parlait des intendants, est devenu l'évêché, actuellement c'est l'évêché, il date de 1786, le voici, hôtel de l'intendance, actuel évêché aujourd'hui, le voici. Alors, en cette fin du XVIIIe siècle, la France s'est déjà engagée dans un style néoclassique. En architecture, c'est frappant. Soufflot, avec son église Sainte-Geneviève, aujourd'hui Panthéon, avait ouvert la voie. Et d'autres architectes vont suivre dès 1750. Hein, ce qui fait qu'en 1786, l'architecture un peu partout est néoclassique, est devenue néoclassique. Par exemple, à Bordeaux, voyez cela avec le palais Rohan. Le palais Rohan date de cette époque, il est de la fin du XVIIIe siècle, mais il n'est pas du tout dans le style des bâtiments de la Bourse à Bordeaux. Les bâtiments de la Bourse, donc construits par les Gabriels, s'inclinent volontiers, ou ont une tendance à aller vers le baroque. Hein, c'est légèrement baroquisant, presque pourrait-on dire rococo, hein, c'est discrètement rococo, les bâtiments des Gabriels à la Bourse de Bordeaux, mais pas le palais Rohan. Palais Rohan, donc à Bordeaux, est d'un néoclassicisme tout à fait frappant. Donc beaucoup plus sobre. C'est ce que l'on retrouve ici, hein, une sobriété. Voilà pour le 18e. Donc ça vous donne une petite idée de l'architecture lilloise du 17e siècle. On aura bien distingué l'architecture espagnole ou du temps des Espagnols de l'architecture du temps des Français. Une petite idée de l'architecture du XVIIIe siècle et maintenant une toute petite évocation de l'architecture lilloise au XIXe siècle, ou plutôt quelques remarques générales. En 1858, à l'étroit dans son enceinte, décidément, Lille annexe 7 communes voisines et double ainsi sa superficie vers le sud. Ça rejoint le propos de mon introduction quand on a commencé ce cours. Voilà, donc Lille annexe 7 communes en 1858. Elle double sa superficie vers le sud. Ces nouveaux quartiers sont traversés de grandes percées à la Haussmann. En voilà une, par exemple. Les principales convergent vers la place de la République. Tout à l'heure, on a vu la place Charles de Gaulle, qui est en fait la place de la Vieille Bourse. Et je vais vous montrer maintenant la place, vaste place de la République, où convergent les principales axes à la Haussmann. Et cette place a un intérêt parce qu'elle est bordée, place de la République, elle est bordée de l'hôtel de la préfecture, qui date de 1869, et du Palais des Beaux-Arts. Justement. Alors d'abord, l'hôtel de la préfecture, 1869. Donc là, vous êtes sur la place de la République. D'un côté, donc, l'hôtel de la préfecture, qui est un bâtiment 19e, qui est un néo quelque chose. Vous savez, vous connaissez l'histoire de l'architecture 19e. C'est une histoire qui ne se fait pas, qui n'arrive pas donc à se faire dans le sens que l'architecture 19e ne parvient pas à trouver son identité. L'identité, c'est bien sûr l'industrie. Et quand on comprendra qu'il faut utiliser les matériaux métalliques pour construire, alors effectivement, là, l'architecture 19e aura plus d'identité. Et bon, il faudra attendre un certain temps avant qu'on le comprenne. Voilà, alors donc je vous parlais de deux bâtiments bordant cette place de la République. Voici le deuxième, le Palais des Beaux-Arts, donc qui est le musée aujourd'hui, le Palais des Beaux-Arts, donc qui date de 1885-1892. Vous avez les architectes, Édouard Bérard, Fernand Delmas. Donc c'est le musée qu'on avait un peu visité, je crois, la fois précédente, le Palais des Beaux-Arts. Le musée en question, je vous le rappelle, c'est le deuxième plus grand musée de France après le Louvre. La collection est vertigineuse, vraiment. On a vu tout à l'heure le beffroi de l'hôtel de ville. On se rappelle qu'il date du XXe siècle. En voici un autre bâtiment du XXe, prestigieux d'ailleurs, très prestigieux. C'est l'Opéra de Lille, un théâtre d'inspiration néoclassique. C'est toujours du néo quelque chose en ce début du XXe. Voilà, et vous avez les références, construit de 1907 à 1913, il est inauguré officiellement en 1923, donc voilà, donc d'inspiration néoclassique. Oui, effectivement, les modèles sont donnés par notamment Ledoux, le grand architecte Ledoux, qui à Besançon avait construit un hôtel dans ce ton, ou ce goût, ou ce style néoclassique. Mais là, nous sommes au XXe. Mais c'est tout à fait inspiré, effectivement, de l'architecture néoclassique d'un Ledoux, quand Ledoux a imaginé son théâtre de Besançon. Et par contre, on est tout à fait surpris au niveau de l'attique par ce groupe sculpté qui est absolument monumental, écrasant, gigantesque, et qui, lui, n'est pas néoclassique du tout. Qui va emprunter à l'Opéra de Paris, qui emprunte donc à Garnier, enfin à l'Opéra Garnier, à Carpeaux, je parlais de Carpeaux. Donc les grands ensembles sculptés que Carpeaux a laissés à l'Opéra Garnier inspirent le sculpteur qui fait cet ensemble. Je vous montre de plus près donc cette sculpture de l'attique, c'est impressionnant, c'est un groupe monumental, en tout cas d'une rare ampleur. Est réalisé par un certain Hippolyte Lefèvre. C'est le sculpteur de ce groupe sculpté de l'opéra de Lille. Hippolyte Lefèvre. Et le groupe illustre, tout bêtement, la glorification des arts, entendez, autour d'Apollon, dieu des arts, qui est la figure principale que l'on voit ici, se manifester là, donc autour d'Apollon, neuf muse représente la poésie, la musique, la comédie, la tragédie et les autres arts lyriques ou même scientifiques, et elles se perdent ici dans la composition, une composition qui est très, très aérienne, très, très souple, faite de courbes et de contre-courbes. C'est pour ça que je disais, ça tranche avec le style néoclassique de la façade de l'opéra. Enfin, c'est très beau, c'est un très très bel opéra que les Lillois ont. Voilà, ça vous donne une idée de ce patrimoine architectural de Lille. C'est une ville étonnante, Lille. qui peut effectivement surprendre pour certaines époques, comme l'époque médiévale, où là, effectivement, on n'a pas grand-chose, mais qui peut aussi surprendre quand on voit la vieille bourse, par exemple. Cet édifice colossal, considérable, d'une qualité incroyable, et quelques autres édifices que j'ai pu vous présenter. Enfin, ça vous donne une idée. Et ce que je vous propose, acceptez si vous avez des questions à poser, c'est de revenir au Palais des Beaux-Arts. Il est 15h17, on a jusqu'à 15h30. Pas d'autre explication que celle que j'ai tenté de formuler en début de cours, c'est-à-dire, alors, on assiste au 19e siècle à une... Enfin, je dis croissance démographique, c'est même pas ça, quoi. C'est-à-dire, c'est une immigration, c'est une immigration de masse. Donc, on a parlé effectivement d'une population essentiellement belge qui vient s'installer là, que ce soit à Roubaix, à Tourcoing ou même ailleurs et à Lille. Et cette population qui vient s'entasser dans les courrées, donc les corons, etc. Cette population donc a des besoins et tout cela fait effectivement que on voit disparaître à ce moment-là, essentiellement au XIXe siècle, en dehors des quelques événements que j'ai pu citer, incendie par là, vous voyez le théâtre qui a été incendié, telle église qui a été incendiée, en dehors de ces événements-là, c'est l'urbanisme du XIXe siècle et encore du XXe qui voit effectivement disparaître ce patrimoine médiéval. Mais il a existé. Lille a été une résidence ducale, on sait qu'il y avait une centaine d'hôtels particuliers, tous disparus. Ah, c'est étonnant, tout à fait étonnant. De ce point de vue-là, effectivement, c'est un cas de figure, Lille, qui est assez étonnant, carrément même troublant. Que, quoi qu'il en soit, j'en étais là et j'étais très très déçu quand même d'être passé trop vite sur ce chef-d'œuvre du musée des Beaux-Arts de Lille. Donc si vous le permettez, quelques chefs-d'œuvre jusqu'à ce que l'heure sonne, finalement 15h30, de ce musée des Beaux-Arts de Lille, quelques commentaires à ce propos. Donc ici, de Goya, la lettre. Que voit-on ? Une belle et jeune dame qui se promène. Elle est abritée du soleil par une ombrelle que tient sa servante. Cette Mara, car c'est une Mara, une Espagnole vêtue élégamment, est en train de lire une lettre d'amour. Mais, à bien regarder son attitude, elle sourit, le poing posé sur la hanche, on se doute qu'elle se moque de son amoureux et de ce qu'il a pu lui écrire. À l'arrière-plan, et c'est peut-être ce qui est le plus important finalement, à l'arrière-plan, un groupe de femmes, des lavandières occupées à travailler. On va agrandir le détail. Remarquez, ces lavandières à l'arrière-plan. Et le contraste du même coup qu'opère Goya dans ce chef-d'œuvre. Elles sont courbées, elles s'épuisent à laver du linge dans la rivière, et Goya les brosse à grands traits, si bien qu'on ne distingue pas leur visage. Le contraste avec les deux femmes du premier plan est tout à fait frappant. En fait, ce tableau est une satire sociale. C'est une satire sociale. Ce tableau, par ailleurs ici à Lille, au musée des Beaux-Arts, est accroché, et j'ai dû le montrer la fois précédente, il est accroché à côté d'une autre œuvre de Goya, Le Temps dit les vieilles, si ce tableau c'est la lettre, dit les jeunes, attention au titre les jeunes, c'est à rebours qu'on lui a donné ce titre-là, peint vers 1814-1819, voici maintenant l'autre tableau, le temps dit les vieilles, première remarque, il a été peint avant, les vieilles, c'est un tableau peint avant, il a été peint entre 1808 et 1812, donc la lettre dit les jeunes, peint après 1814-1819. Bon, que voit-on ? Que voit-on dans ce tableau, dit le temps, enfin, ou les vieilles ? Une aristocrate et sa servante sont assises, l'une à côté de l'autre. La première tient dans ses mains un petit objet qui est probablement un portrait d'elle-même. Donc effectivement, ici, là, c'est un tout petit objet qu'elle a dans sa main, c'est sans doute un portrait d'elle-même. Quand elle était jeune fille, on peut imaginer, effectivement, vous l'aviez compris, un portrait d'elle-même quand elle était jeune fille. Et la seconde, mais là, on va agrandir le détail, voilà, on va l'agrandir comme ça, le détail. La seconde lui présente ce qui semble bien être un miroir, Donc un portrait d'elle quand elle était jeune et puis un miroir qui montre la différence. Et dessus, sur le miroir, vous pouvez lire l'inscription en espagnol « ¿Qué tal ? ¿Qué tal ? Comment ça va ?» Le ton est donné. Goya se moque de ses femmes qui sont visiblement aux portes de la mort. La bouche édentée de l'une, les yeux creusés de l'autre, elles ressemblent déjà à des squelettes, et ça malgré leur belle toilette. Mais plus étonnant encore, un troisième personnage intervient, qui s'apprête à les frapper avec un balai. Et ce personnage, qui lui aussi est ridiculisé, ridiculisé parce qu'il a un balai, c'est Cronos. C'est Cronos, c'est le dieu du temps. Il devrait avoir dans ses mains la faux. Hein, la faux, mais c'est une image très forte, la faux. Hein, donc là, ici, Goya a préféré la remplacer, mais pour ridiculiser ce personnage, du même coup, tout l'ensemble, il a préféré lui donner un balai. Or, remarquez ce détail, la flèche que porte l'aristocrate, fichée dans sa coiffure. Est-ce qu'on la voit? Oui, on la voit. On la voit à peu près. Donc, dans la chevelure blonde, hein, qui est en fait une perruque, bien sûr, de l'aristocrate, donc fichée dans la coiffure, une flèche. La flèche en question identifie cette femme à la reine Maria Luisa, on parle bien donc de la reine d'Espagne. Pourquoi? Parce que Goya avait fait son portrait quelques années auparavant, dans un style, vous le comprendrez, plus consensuel, mais il l'a peigné avec le même bijou. Donc quand il faisait le portrait tout à fait officiel hein, de la reine d'Espagne Maria Luisa, il l'a peigné avec ce bijou. Donc le fait de le retrouver ce bijou, c'est une caricature. Il fait la caricature de la reine d'Espagne, Maria Luisa. Ah, c'est un vrai romantique. Hein. En voici un autre d'ailleurs, hein, romantique. Hein. Alors nous sommes à Rome, au mois de février, en plein carnaval. C'est le jour de la traditionnelle course de chevaux libres. Les chevaux, on le voit, vont être lâchés le long du Corso. Le Corso, c'est la principale artère de Rome. Et Jéricho peint cette esquisse là, in situ. Il est là, il est à Rome. Il séjourne en Italie en 1817 et il peint cette esquisse là sur le vif, on pourrait dire. Hein. Bon, il assiste en tout cas à cette grande fête populaire. Et puis, donc vous savez que Jéricho a été un cavalier émérite. Il était passionné de chevaux. On a tous en tête ce superbe officier, donc à cheval de la garde napoléonienne. Il était passionné de chevaux, hein, cavalier émérite, hein, Jéricho. Et donc, il ne pouvait que se saisir d'un tel sujet. Il entreprend de peindre une grande composition, c'est peu de le dire, c'est pas celle que vous avez sous les yeux, là c'est l'esquisse. Et on en compte une vingtaine. Il y a 20 esquisses qui préparent le grand tableau. Et là, on est devant une esquisse qui se situe à mi-chemin, hein, dans l'élaboration ou le processus de création qui aurait dû conduire au grand tableau. Nous sommes à mi-chemin. Et à ce stade, l'artiste hésite entre un style proche de l'héroïsme classique, c'est-à-dire emprunté finalement à David, qu'on avait dû présenter, je crois, la fois précédente. David est très très bien représenté dans ce musée. C'est l'héroïsme classique qui est prôné par l'Académie et que représente le grand peintre contemporain de Jéricho, David. Donc il hésite entre ce style héroïque classique et la scène de genre. Il hésite entre un style qui est celui de l'héroïsme classique, prôné par l'Académie, et la scène de genre, qui est plus contemporaine, qui lui permettrait par ailleurs d'afficher la modernité de son coup de pinceau. Il hésite entre les deux. Observant cette scène directement dans la rue, il veut en retranscrire toute la vérité. Donc c'est pour ça qu'il y a cette hésitation chez lui. Alors bon, là la photo ne restitue pas les vraies couleurs, hein, je m'en excuse, mais c'est toujours très très difficile de restituer les justes couleurs d'un tableau. Quoi qu'il en soit, les coloris sont francs et puissants, on le devine au moins. La touche spontanée, la lumière dramatique, malgré sa rigueur classique et sa construction en frise empruntée à l'Antiquité, l'œuvre de Jéricho est cependant profondément romantique. mais romantique dans le plein sens du terme, le vrai plein sens du terme, hein, c'est-à-dire, voyez plutôt, par exemple, le détail là, qu'on va agrandir, qui est ici au premier plan, qu'il a mis au premier plan. Hein. Cette scène, elle est romantique parce qu'elle symbolise la lutte de l'homme contre la nature sauvage. La nature sauvage est incarnée par le cheval, et face à cette force de la nature, l'homme ne peut pas grand-chose. Ça, c'est l'opinion du romantique. Hein, vous savez que le romantique a peint une image emblématique, le naufrage. Contre les forces de la nature, on ne peut rien. Hein. Et là, vous avez effectivement un cheval qui va piétiner carrément un individu, et sans doute le tuer, hein, mais le cheval est emblématique de cette force de la nature. Hein. La toile finale, qui devait faire 10 mètres de côté, d'où la vingtaine d'esquisses hein, qu'il avait préparées, dont celle-ci, la toile finale ne sera jamais réalisée par Géricault. On le saurait, sinon. Vous le sauriez, hein, donc s'il y avait, comme le radeau de la Méduse, un tableau qui serait la course de chevaux libres à Rome, de 10 mètres d'envergure, tout le monde le saurait, ça n'existe pas. Il n'a jamais fait, en fait, hein, ce tableau fini. Enfin, on imagine un peu hein, ce que ça aurait été. Hein. Oui, parce qu'effectivement, il a une touche spontanée, hein, c'est-à-dire qu'il a, il travaille vite, il veut restituer ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vu ressenti, ce qu'il a saisi, en fait, quand il a assisté à cette course de chevaux. Il veut retranscrire tout ça. Donc, il travaille très vite, et ça crée peut-être cet effet, comme vous avez dit, donc, pommelé, c'est ça, pommelé, voilà. Oui. Voilà, et un dernier chef-d'œuvre. Donc là, vous avez un chef-d'œuvre de Courbet, c'est peu de le dire, hein. L'après-midi à Ornans. Juste l'essentiel, remarquez les dimensions. Les dimensions, ne serait-ce que ça, 1,95 m sur 2,57 m. On n'a jamais vu ça. Le tableau est un scandale. Hein, c'est un scandale parce que, logiquement, la thématique qui relève de la scène de genre aurait dû être traitée sur un tout petit format. On lui en fait le reproche à Courbet. Hein. On lui en fait le reproche. Et à ce propos, Ingres, le grand peintre Ingres, qui est le représentant de l'Académie, qui est le représentant du style classique, s'inquiète de cet exemple qu'il dit dangereux. Donc c'est le mot de Ingres à propos du réalisme de Courbet. Dangereux, dit-il. Et Delacroix. Delacroix qui, lui, est le représentant du romantisme. Il y a deux tendances, hein, comme ça, qui s'affrontent hein, au sein du Salon de Paris. Il y a la tendance classique ou néoclassique de David et de Ingres, et il y a la tendance romantique de Delacroix. Delacroix s'extasie, et Delacroix dit « Avez-vous vu rien de pareil, ni d'aussi fort ? C'est un novateur, c'est un révolutionnaire. » Voilà ce que Delacroix disait de Courbet et de ce tableau-là. C'est un révolutionnaire. Et effectivement, ce révolutionnaire fonde le style réaliste, le réalisme, dont l'autre grand représentant, c'est Manet, et Édouard Manet, peintre réaliste, est aussi le père de l'impressionnisme. Vous voyez comme quoi cette œuvre est fondamentale. Voilà. Il est 15h31, je m'excuse pour la petite minute de trop. Enfin bon, c'est pas trop en retard, ça va, hein.